Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'avoir choisi Studio Tamani pour vous informer. Il est 8h à Sibirifana dans l'arrondissement de Blendio, cercle de Niena, les titres de cette édition matinale. La crue du fleuve Niger continue de faire d'énormes dégâts au nord du pays. Les agriculteurs à Tombouctou et Gao annoncent avoir perdu des centaines de champs de riz à cause des inondations. Bamako abrite depuis hier la première édition du Forum international annuel sur le développement de la région de l'Iptako-Gourma. Cette première édition est placée sous le thème relèvement et stabilité, facteur clé du développement territorial de la région de l'Iptako-Gourma. Le dossier de la semaine s'intéresse à la petite corruption et mal qui gangrène pratiquement tous les secteurs d'activité. Des petits gestes de corruption souvent minimisés dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilo Maïga, la mise en onde Nounguiri. Je le disais dans les titres, la crue du fleuve Niger continue de multiplier les dégâts au nord du pays. Cela malgré le soutien obtenu par Androua pour prévenir les risques d'inondation. Plusieurs centaines d'hectares rizicoles sont inondés dans les régions de Tombouctou et Gao. À Tombouctou, la coopérative de riziculteurs à Madia affirme avoir tout perdu ce mardi matin, alors qu'à Gao, plus de 100 paysans ont vu leur culture emportée par les eaux à Bagoundié dans la commune de Gounzouré. Malgré tout, les risques d'inondation persiste. Les détails avec Assetou Kanté.
Plus de 620 hectares de riz de la plus grande plaine rizicole de la région de Tombouctou ont été totalement submergés hier mardi suite à la montée des eaux du fleuve. Le président de la coopérative Amadia, Mahaman Gobi, souligne que cette situation aurait pu être évitée si toutefois les autorités régionales avaient répondu à leur alerte.
Notre situation était prévisible. On a fait ce qu'on pourrait faire. On a dit à tout le monde que c'est des travaux qui dépassent nos compétences. On a invité l'État, on a invité les partenaires pour pouvoir ensemble trouver la solution. Mais gain de cause, c'est la plus grande plaine de la région. 620 hectares, il faut multiplier 5 tonnes par 620. Qu'est-ce que ça fait? Au rendement, il y aura vraiment des crises alimentaires.
À Bangoudji, dans la commune rurale de Gounzouré, cercle de Gao, le périmètre irrigué a été aussi envahi par les eaux. Selon le conseil communal des jeunes, des moyens humains et matériels ont été mis en place pour prévenir cette catastrophe naturelle, mais ces efforts sont restés vains. Mohamedou Doulouahidou, secrétaire aux relations extérieures du conseil communal de la jeunesse de Bangoudji.
C'est un périmètre irrigué où des centaines de personnes travaillent, mais actuellement tout est sous l'eau. Les gens vraiment sont sortis les mêmes brûlis. Des efforts pourtant ont été consentis pour vraiment prévenir cette calamité.
Rappelons qu'une délégation du commissariat à la sécurité alimentaire, du ministère de la Santé et du Développement Social et le Programme alimentaire mondial a apporté le 6 décembre dernier une assistance immédiate de 80 tonnes de céréales aux populations sinistrées. À Tombouctou.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La première édition du Forum international annuel sur le développement de la région de l'Iptako-Gourma a débuté ce mardi au Mali. Elle vise à créer un cadre d'échange entre les acteurs du Niger, du Burkina et du Mali sur les facteurs clés du développement sous-régional. Ce rendez-vous de Bamako a pour thème relèvement et stabilité, facteur clé du développement territorial de la région de l'Iptako-Gourma. Ces assises se poursuivent jusqu'au 12 décembre à Bamako. Les détails avec Ziadata El Kassoum Maïga.
Cette première édition du FIA regroupe des universitaires venus du Niger, du Burkina Faso et ceux du Mali. Ils vont échanger sur les thématiques liées au changement climatique, la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la mobilité transfrontalière. Adama Ibrahima Berté, coordinateur du projet communautaire de relèvement et de stabilité au Sahel, PCRS Mali.
C'est pour échanger quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour pouvoir amorcer un développement au niveau de la région du Niger. Les thématiques liées à la mobilité transfrontalière, qu'on puisse trouver des solutions, c'est-à-dire la prise en compte des changements climatique dans les actions de développement, de mettre en place une politique harmonisée d'intervention, que ce soit au Niger ou au Burkina ou au Mali.
Les participants venus du Niger, du Burkina Faso, attendent beaucoup de ce rendez-vous de Bamako pour faire face aux défis de développement et de stabilité dans la région.
Ce forum doit nous permettre de voir quelles sont les bonnes pratiques en matière de stabilisation, en matière de relèvement pour résoudre les questions sécuritaires et d'aller au développement durable.
Le Burkina vient d'abord pour partager son expérience et recueillir les expériences des deux autres pays comme action de promotion de la cohésion sociale.
Le ministre de la Réconciliation nationale a invité les participants à mener des réflexions approfondies pour adopter une approche intégrée en matière de sécurité, de cohésion sociale et de développement durable dans l'espace de l'Iptako-Gourma.
Il est 8h05 à Yoroso. Dans cette localité, les enseignants formateurs du centre de formation professionnelle de Yoroso affirment n'avoir toujours pas reçu leur salaire du mois d'octobre et novembre. Selon les responsables de leur collectif, ils ont démarché plusieurs fois les autorités locales et régionales sans succès. Ils soulignent aussi que 14 enseignants fonctionnaires de collectivités sont concernés par ce retard de paiement de salaire. Sur toute autre information, l'ordre juridictionnel administratif est l'un de deux ordres juridictionnels que comporte le système judiciaire malien, mais il se trouve que ce service est méconnu du public. Comment l'ordre juridictionnel administratif est organisé au Mali? Quelles sont ses compétences? Élément de réponse dans ce reportage de Mahmoud Agrissa.
Je dirais que les tribunaux administratifs sont là uniquement pour gérer les affaires étatiques.
Les tribunaux administratifs, leur organisation, j'en connais pas beaucoup.
C'est ma première fois d'entendre ces noms.
Comme eux, ils sont nombreux les citoyens qui savent peu de choses sur le système judiciaire malien. Le professeur Mohamed Salia Touré nous explique l'organisation, la compétence et qui peut saisir les dites juridictions au Mali.
Les juridictions administratives, c'est les juges des contestations, des décisions des autorités administratives. Il y a les juridictions premier degré qu'on appelle les tribunaux administratifs. Il y a les cours administratives d'appel et il y a la section administrative, la cour suprême. Les juridictions administratives peuvent être saisies à la fois par les citoyens et toute autorité administrative de l'État.
À noter qu'à côté des juridictions administratives de droit commun, existent aussi d'autres autorités administratives à caractère juridictionnel qui participent au règlement des contentieux administratifs.
Direction Kaïa, une rencontre pour la promotion des droits des filles et des femmes s'est tenue hier mardi. L'objectif, selon les organisateurs, vise un échange de comportements et de structures de prise en charge adéquate pour les survivantes de violences basées sur le genre. L'activité s'inscrivait dans le cadre de la clôture de 16 jours d'activisme. Elle a été organisée par Wildaf à travers sa clinique juridique en partenariat avec le projet pluriel. Les autorités ont participé à l'activité.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La corruption est une réalité dans plusieurs secteurs privés et publics. Des actions de sensibilisation sont menées par des associations et les autorités pour mettre fin à la pratique. Pour autant, la forme la plus répandue, qui est la petite corruption, passe souvent inaperçue. Qu'est-ce que la petite corruption? Comment elle est vue par les populations? Quelle prévoit la loi? Que prévoit la loi? Des éléments de réponse dans ce dossier de la semaine réalisé par Adama Amadou Haïdara.
La petite corruption peut se présenter sous deux formes. On en sait plus avec Ibrahim Ben Mamata, juriste.
Petite corruption active, ça c'est dans le cas où c'est l'employeur ou bien le fonctionnaire qui sollicite de la personne qui vient dans son service quelque chose pour faire le travail pour lequel il est payé. On parle de corruption passive dans le cas où l'usager du service public ou privé propose quelque chose à l'employé ou au fonctionnaire pour un service.
Au Mali, on le dit couramment, avoir des bras longs est un atout pour parler ainsi des relations. Et la population bien consciente de son acte s'y prête quand même.
Effectivement, dans les services, on se rend entre nous, amis, parents et frères.
Une fois, on m'a arrêté pour une vignette, ça m'a choqué, j'ai payé 1000 francs. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis que vraiment, c'est pas normal.
J'ai même une fois payé 5000 francs pour avoir ma carte d'identité. C'est de la corruption.
Pourtant, cette petite corruption est opprimée par le code pénal malien à travers les articles 120 et 123, comme le souligne ici Ibrahim Ben Mamata.
Et la peine de la corruption varie selon les registres. S'agissant des fonctionnaires, elle peut être de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Du secteur privé, c'est de 2 à 5 ans.
Sur le plan économique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Selon l'économiste Abdoulkarim Diamoutene, la petite corruption, de par son élargissement, a plus d'impact négatif.
Le niveau de pauvreté au Mali, qui théoriquement est entre 40 et 50% de la population qui est censée être pauvre, et donc cette corruption-là, elle ne fait que aggraver la pauvreté de la population. Les gens ont tendance d'ignorer et puis surtout quand on voit un peu les rapports, c'est cette petite corruption-là qui concerne un peu la majorité de la population malienne.
L'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière condamne la corruption sur toutes ses formes. Son président Moussa Touré appelle à un éveil de conscience.
Ce sont des pratiques que nous dénonçons, c'est des demander aux citoyens de refuser cette corruption ou de la dénoncer. Tant qu'on ne va pas la dénoncer, il va continuer à perdurer.
Plusieurs mesures ont été prises pour mettre fin à cette pratique qui continue malgré tout.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale qui vous a été présentée par Imrana Kilomaiga. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Merci. Les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles ont pris fin hier 10 décembre 2024 au Mali. Des organisations engagées dans cette campagne tirent un bilan satisfaisant des activités de sensibilisation dans le cadre de la prévention. Malgré ces mobilisations, les acteurs déplorent par ailleurs l'intensification du phénomène. Ils proposent une loi portant prévention et répression pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre. C'est dans les magazines Toutes les femmes du Mali consacré au bilan de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, une réalisation de Adama Madou Haïdara.
Le réseau WILDAF au Mali juge le bilan de ces 16 jours d'activisme satisfaisant. Selon ses responsables, des campagnes de sensibilisation en ligne et en région ont été menées. Des activités qui s'adressaient à tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles. Madame Boiré Bintou Founé Samaké, présidente de WILDAF Mali.
On a plus de 15 000 personnes qui ont visité, réagi par rapport aux messages en ligne. Ensuite, nous avons mené des activités de formation, mais aussi des campagnes physiques à Mopti, Ségou, Banyangara, à Bamako ici, à Tombouctou, Kaïe.
L'association La Femme en Moi aborde dans le même sens. Selon sa secrétaire exécutive, des messages, vidéos et témoignages ont été diffusés pour dénoncer les violences basées sur le genre et encourager les victimes à demander de l'aide. Anta Maïga, secrétaire exécutive de l'association.
Je dirais que le bilan est satisfaisant. Nous avons constaté un fort engagement en ligne avec de nombreux partages, commentaires et interactions, ce qui prouve que le message a eu un impact. Cependant, des efforts restent nécessaires pour renforcer l'impact hors ligne.
La secrétaire exécutive de l'association, par ailleurs, fait des propositions en vue d'accompagner les initiatives en cours et à long terme.
Il est essentiel d'adopter et d'appliquer des lois plus strictes, d'investir dans des centres d'accueil pour les victimes, de renforcer les programmes d'autonomisation économique des femmes et d'impliquer les leaders communautaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre.
Des bénéficiaires des campagnes de sensibilisation durant ces 16 jours à l'intérieur du pays en sortent réconfortés. Selon eux, c'est une initiative qui leur a permis de comprendre certains aspects de ces violences. Cette habitante de Koulikoro, qui a souhaité garder l'anonymat, en est une illustration.
Les populations bénéficient tout le temps de formations sur le sujet. Beaucoup saisissent l'occasion pour donner leur opinion. Je pense que l'abandon du mariage précoce est au programme. Il faut intensifier les formations pour mettre fin à ces phénomènes. 16 jours n'est pas assez suffisant pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. On doit au moins répéter cet exercice 2 fois par an.
Cependant, pour réduire le taux des VBG, l'initiative Zéro Violence appelle à l'écoute des hommes acteurs de violence dans les campagnes de sensibilisation. Selon ses responsables, cette initiative pourrait impacter les agressions dont les femmes et les filles sont victimes. Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence.
Si vous vous retrouvez devant une femme qui ne vous respecte pas, qui ne fait jamais les choses comme vous le souhaitez, qui n'en fait qu'à sa tête, il y a des gens qui peuvent se maîtriser. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui ne verront que de la violence comme moyen de répression. Donc si la campagne s'adressait plus aux hommes en amont, moi je pense que ça serait éventuellement le seul moyen, selon moi, de beaucoup jouer sur les taux très élevés aujourd'hui des violences faites aux femmes.
Pour un rappel, plus de 7600 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés au Mali entre janvier et mai 2024, soit une augmentation de 89%. 97% des survivantes sont des femmes, dont 19% des filles de moins de 18 ans. C'est du moins ce qui ressort du rapport trimestriel d'octobre 2024 du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA.